les podcasts de Radio Vatican.
Au lendemain de l'élection d'une assemblée constituante contestée au Venezuela, les condamnations internationales se multiplient ce lundi 31 juillet 2017. L'Espagne, terre d'accueil de nombreux exilés vénézuéliens, a refusé de reconnaître la constituante quand plusieurs pays d'Amérique latine ont condamné les violences de dimanche. Les États-Unis ont menacé le Venezuela de nouvelles sanctions. Sur place, l'opposition a appelé à poursuivre les manifestations et conteste le chiffre de 8 millions d'électeurs brandis par le pouvoir pour légitimer la nouvelle assemblée. Le mode de scrutin est également décrié. Thomas Posado, docteur en sciences politiques à l'Université Paris 7 et spécialiste du Venezuela, revient au micro de Marie Duhamel sur cette élection et sur la division de la société vénézuélienne.
Il y a une série d'incidents et puis il y avait un mode de scrutin qui est extrêmement particulier. Par exemple, chaque citoyen votait non seulement en tant que citoyen dans le cadre territorial, suffrage universel, etc., mais il votait également en fonction de sa corporation, en fonction de son métier, ce qui est assez difficile à déterminer. Un président de la République, est-ce que c'est un travailleur, est-ce que c'est un entrepreneur, est-ce que c'est un retraité, le cas s'est posé pour des millions de personnes, donc où cette détermination de à quelle corporation, quelle personne appartient, suscite les difficultés pour un mode de scrutin de ce type. Et également, autre difficulté, il n'y avait pas d'assesseur contraire. C'est-à-dire que dans la plupart des élections, on a à la fois un assesseur de la majorité, un assesseur de l'opposition. Là, l'opposition a clairement refusé de participer à un scrutin qu'elle jugeait coupé en amont par le mode de scrutin qui a été déterminé par Nicolas Maduro.
Nicolas Maduro juge le scrutin d'autant plus valide que le nombre de participations est selon lui plus important à celui de la semaine dernière, consultation organisée cette fois par l'opposition. Que dire de cette guerre des chiffres ?
Oui, après, c'est le problème de cette bataille de chiffres invérifiables, puisque il y a un camp qui se mesure et l'autre camp qui se mesure, mais indépendamment l'un de l'autre. On a des élections parallèles en 2 semaines au Venezuela. Il y a 15 jours, l'opposition a fait un vote où elle dit avoir réuni plus de 7 millions de personnes. Là, aujourd'hui, le gouvernement a fait un vote où il dit avoir réuni plus de 8 millions de personnes, mais aucun des deux n'avait d'assesseur contraire, ce qui permet de vérifier la fiabilité de ces résultats. Le résultat qu'a proclamé Nicolas Maduro semble, comme sans doute l'est aussi celui de l'opposition, celui de Nicolas Maduro, semble surévalué parce qu'on atteint avec plus de 8 millions des chiffres supérieurs à ceux qu'atteignait Hugo Chavez au plus haut de sa popularité, la dernière élection en 2012, où il a été élu avec 55% des voix, au moment où il était malade, où il y avait un peu un hommage à sa présidence. C'était du même ordre de grandeur en termes de nombre de voix. Donc ce qui est assez improbable qu'un pays dans une telle situation de crise économique, avec une telle impopularité du gouvernement, arrive à des niveaux de voix aussi élevés, et ce qui ne correspond pas trop à la réalité qui a pu être observée sur place, avec certains bureaux qui étaient pleins dans les zones des quartiers populaires, mais dans plein d'autres zones où il y avait assez peu de mobilisation. Donc c'est assez difficile de déterminer précisément quel a été le nombre de suffrages exprimés.
Est-ce que selon vous, le président Maduro sort renforcé ou affaibli par ce scrutin ?
À ses yeux, il sort sans doute renforcé. La légitimité de ce scrutin, elle était déjà faible avant qu'il ait lieu. Aujourd'hui, en proclamant qu'il y a 8 millions de personnes, ils imaginent sans doute renforcer cette légitimité. Simplement, ce chiffre de 8 millions de personnes, il n'y a pas grand monde qui y croit, y compris au Venezuela. La légitimité, elle viendrait si le gouvernement arrivait à vraiment convaincre que 8 millions de personnes sont venues s'exprimer dimanche dans les urnes.
Personne n'envisage un retour en arrière, ni le président Maduro, ni d'ailleurs l'opposition. On a l'impression d'un pays sur 2 rails. Jusque quand ? Qu'est-ce qui peut modifier cette situation ?
2 rails qui divergent, c'est ça qui est d'autant plus préoccupant pour la situation du Venezuela. À court terme, j'ai du mal à imaginer quelle peut être la solution. On a du côté du gouvernement un maintien de cette constituante où la seule issue pourrait être que l'opposition arrête de manifester, ce qui ne semble pas le scénario le plus probable. Et du côté de l'opposition, un maintien des manifestations, un maintien d'une radicalité dans le niveau de revendication des élections générales, alors que rien dans la constitution ne l'indique, un niveau de violence qui est des deux côtés extrêmement élevé, et où la seule solution du côté de l'opposition serait un renversement, une démission de Nicolas Maduro, ce qui semble à cette heure, pour l'instant, relativement improbable. Si les violences continuent et si les deux camps continuent une escalade des deux côtés, le risque d'une guerre civile devient majeur dans une situation économique tout à fait catastrophique où il y a des pénuries d'aliments, il y a des pénuries de médicaments et où le gouvernement en place, quel qu'il soit, enfin qu'il soit Nicolas Maduro ou qu'il soit l'opposition à Nicolas Maduro, serait confronté à des graves difficultés où il y a très peu de marge de manœuvre. Il faut rembourser une dette qui est relativement élevée. Il y a des niveaux de pénurie et des besoins d'importation dans un pays qui n'est pas souverain d'un point de vue alimentaire qui est extrêmement important. On a du mal à avoir une solution à court terme.
Est-ce que les deux camps qui s'affrontent représentent des chiffres suffisamment conséquents pour pouvoir justement bloquer tout un pays ?
Il y a sans doute pas eu 8 millions de personnes qui se sont mobilisées hier, mais il y a quand même eu des millions de personnes. Même l'opposition accepte qu'il y a eu au moins 2,5 millions de personnes qui se sont mobilisées hier. Et c'est pas négligeable dans le pays. Et le problème, c'est que du côté de l'opposition, il y a une partie de la population qui n'est pas hégémonique, mais qui représente une autre partie du pays. Et tant qu'il n'y a pas une solution commune, c'est difficile d'imaginer. Enfin, c'est un peu ce qui est dramatique dans la situation vénézuélienne à l'heure actuelle.
Et le rôle que pourrait avoir la majorité silencieuse ?
On peut imaginer qu'une solution vienne d'une majorité silencieuse qui puisse se mobiliser ou se faire entendre de manière indépendante et du gouvernement et de l'opposition et proposer quelque chose qui soit mieux pour tout le pays, ce serait bien. Mais enfin, pour l'instant, ça reste très hypothétique, cette majorité silencieuse. Elle n'a pas, pour l'instant, de représentant politique. Elle n'a pas un programme politique, un projet pour sortir le pays de l'ornière dans laquelle il est.
Que dire de la proposition de médiation de l'Église ? Est-ce qu'aujourd'hui, elle est vaine ?
C'est difficile d'imaginer une médiation qui soit fructueuse tant que les deux camps qui mobilisent le plus de personnes ne veulent pas vraiment ou se servent de ces solutions de médiation comme simplement un prétexte pour montrer que le diviseur, c'est l'autre, et celui qui veut pas la pacification, c'est l'autre. D'un côté comme de l'autre, on revendique de vouloir la paix, de vouloir la pacification, etc. Mais aucun des deux camps, pour l'instant, ne donne véritablement de gage et ne s'engage dans des solutions négociées qui permettent réellement un consensus. Enfin, les revendications d'un côté ou de l'autre excluent forcément l'autre camp en ce moment.
Donc il n'existe pas de figure consensuelle qui puisse faire le lien entre les deux camps ?
Pour l'instant, non. Après, je ne sais pas ce qui peut advenir à l'avenir. Mais par exemple, la figure de Luisa Ortega, qui est la procureure générale du Venezuela, qui a été nommée par les chavistes, qui a eu un rôle du côté chaviste assez fortement et qui, depuis le début des mobilisations, critique lourdement la dérive autoritaire de Nicolas Maduro. Cette personne, elle est considérée comme une traître dans le camp chaviste aujourd'hui. Et elle est une des cibles des mobilisations favorables au gouvernement. Elle est accusée de trahison, ses avoirs ont été gelés, une procédure de destitution a été mise en place contre elle. Donc, enfin, une des figures qui pourrait être un pont, qui vient d'un camp, mais qui reconnaît des dérives de son camp, qui pourrait être un pont, n'est absolument pas en position aujourd'hui de jouer ce rôle-là, quoi. Des figures comme Enrique Capriles au sein de l'opposition, qui était donc le candidat aux deux dernières élections présidentielles, et qui, au sein de l'opposition, incarnait le versant un peu plus constitutionnaliste, c'est-à-dire pas les velléités insurrectionnelles de vouloir renverser Nicolas Maduro avant le terme de son élection, mais au contraire, qui voulait attendre les termes constitutionnels pour que Nicolas Maduro s'en aille du pouvoir. Ce projet-là, cette ligne-là est complètement marginalisée, parce que de fait, avec un gouvernement qui refuse le référendum révocatoire, qui refuse des tentatives de consensus, c'est les plus radicaux qui l'emportent. Et des deux côtés, on a une escalade qui font que c'est les plus radicaux qui l'emportent.
Les États-Unis dénoncent aujourd'hui un pas supplémentaire vers la dictature. Est-ce que c'est ce à quoi on assiste ?
Oui, c'est une pas de plus dans une escalade des deux côtés où il y a une dérive autoritaire du côté du gouvernement qui est indéniable, mais des velléités insurrectionnelles du côté de l'opposition qui sont tout aussi indéniables. Le rôle des États-Unis, il risque d'être largement contre-productif. Quand on sait l'histoire des États-Unis en Amérique latine en général, mais au Venezuela en particulier, où les États-Unis avaient soutenu la tentative de coup d'État contre Hugo Chavez en avril 2002, une déclaration venue des États-Unis risque de plus remobiliser le référent de souveraineté nationale par Nicolas Maduro que d'arriver à une solution apaisée. C'est difficile d'imaginer que ce soit un pays étranger, qui plus est un pays qui est sujet à des controverses assez fortes dans le pays, qui puisse amener une solution. Après, la dérive autoritaire, elle s'exprime réellement au Venezuela et pas seulement dans la convocation de cette constituante. On a une répression dans les manifestations, on a des manifestants qui sont déférés devant les tribunaux militaires. On a des reports d'élections, mais pas seulement ces élections qu'appelle l'opposition, mais des élections régionales qui auraient dû avoir lieu en décembre dernier et qui sont reportées donc en décembre de cette année, des élections syndicales qui sont reportées sine die. Dans les quartiers populaires, il y a ce qu'on appelle des OLP qui, sous prétexte de régler le problème d'insécurité, sont responsables, selon les organisations de défense des droits de l'homme, de plusieurs dizaines d'assassinats. Donc il y a une situation d'une dérive autoritaire qui est réelle, mais où le rôle des États-Unis est sans doute plus contre-productif qu'autre chose.
Et quand ce sont des États voisins, la Colombie ou un peu plus loin, le Panama, Pérou, Argentine, Costa Rica, quand tous disent qu'ils ne reconnaîtront pas la constituante, est-ce que là ça peut avoir un impact ou finalement ce qui se passe au Venezuela reste au Venezuela ?
Je pense que le référent de souveraineté nationale sera mobilisé par Nicolas Maduro en cas de tentative d'ingérence de pays étrangers, quels qu'ils soient. Il sera mobilisé avec beaucoup plus de succès si c'est les États-Unis que si c'est la Colombie ou l'Argentine. Ce qu'il faut voir derrière ces déclarations des pays voisins, c'est un changement de conjoncture où pendant 15 ans, il y a eu des gouvernements progressistes dans la plupart des pays de la région et des pays qui étaient surtout alliés du gouvernement vénézuélien. Aujourd'hui, les alliés du gouvernement vénézuélien sont tombé petit à petit, donc notamment en Argentine et au Brésil. Et aujourd'hui, c'est plutôt des pays qui sont opposants au Venezuela, qui sont plus proches de la coalition d'opposition que du gouvernement. Il reste comme soutien au gouvernement la Bolivie, le Nicaragua, l'Équateur, donc pas des pays centraux dans la région. La non-reconnaissance de l'Assemblée constituante par ces pays voisins, elle peut avoir une influence, mais... ce qui se passe dans le pays, comment va être gérée cette Assemblée constituante, que ce que va proposer cette Assemblée constituante restera déterminant.
Parce que pour vous, l'Assemblée constituante a quand même un rôle majeur à jouer aujourd'hui ?
Non, enfin, elle va proposer sans doute un texte qui aura une légitimité sans doute réduite, mais qui aujourd'hui a la mission de refonder les institutions du pays. Enfin, c'est la mission que Nicolas Maduro lui a confiée. Après, quelle sera sa légitimité ? Est-ce que cette constituante va proposer une constitution qui soit ratifiée par référendum ? On verra à l'avenir. Une des reproches qui est faite à la convocation de cette Assemblée constituante, c'est que normalement, selon la constitution de 1999, pour changer de constitution, il aurait fallu un référendum pour la convocation même d'une Assemblée constituante. Ce référendum n'a pas eu lieu et Nicolas Maduro, sachant minoritaire dans l'opinion, est passé en force par l'élection directe de l'Assemblée constituante. Tant qu'il n'y aura pas de légitimité démocratique à cette Assemblée constituante, ce qu'elle fera aura une légitimité très faible. Mais on verra ce qu'elle proposera. Sa marge de manœuvre est vraiment réduite.
Des propos recueillis par Marie Duhamel.